Chapitre 13. L'agonie d'un roi, la tentation de Similor, le combat. Il faisait nuit. Paris opulent achevait de dîner, Paris pauvre était en train de souper. Les gargotes à bon droit célèbres parmi les ouvriers et qui, en ce temps-là surtout, foisonnaient aux environs des halles, regorgeaient de chalands. Il m'est arrivé souvent de glisser mon regard à travers les carreaux troublés de ces réfectoires du travail. La gargote n'est pas le cabaret, tant s'en faut. On voit là en majorité les bonnes, les naïves figures. Chacun y semble franchement content devant la portion abondante qui fume. Là, les défaillances d'appétit ne sont pas connues. On a gagné rudement le plaisir de manger, et l'odorat des convives n'a point ces gênantes délicatesses qui pourraient s'offenser du parfum répandu trop abondamment dans l'atmosphère. L'ail et l'oignon ne déplaisent à personne. L'échalote et le beurre noir ne comptent que des amis. Il fait chaud, et cela semble bon quand le froid humide sévit au dehors. On voit des convives qui ménagent avec sensualité le demi-litre de bleu pour avoir le plein coup du dessert, le verre qu'on boit avec les pruneaux pris dans le grand saladier de la devanture, ou après la compote qui nage dans le jus de pomme aigrelé. J'ai ouï dire que la toilette si coûteuse faite à la grande ville depuis quelque temps par le chef de ses édiles a diminué de beaucoup le nombre de ces gargotes situées à proximité du marché et donnant à ceux qui travaillent une nourriture à peu près saine et sincère. J'ai ouï dire que les restaurants de l'ouvrier se sont embellis comme le quartier lui-même et que les consommateurs y payent désormais non seulement le bœuf avec les légumes, mais encore le loyer, les glaces et le gaz. Tout cela est très cher et ne restaure point. Duval, ce boucher intelligent qui est devenu riche comme un roi, rien qu'en prouvant au public l'authenticité de sa viande, ne vend pas sa viande aux ouvriers. Je serai heureux quand je verrai dans Paris la vieille gargote renaissante, mais appropriée au progrès de nos mœurs. Il faudra peut-être encore beaucoup de temps pour cela, car les industriels aiment mieux spéculer sur les vices de l'ouvrier que de songer à ses besoins. Au lieu du réfectoire modèle que je demande, ce sont des cafés splendides qui s'élèvent, fondés sur ce principe trop connu que rien n'est plus facile à dévaliser que l'indigence. On voit là tout un peuple qui vient s'enivrer d'absinthe frelatée et de luxe moqueur. Ce sont de bonnes affaires. Les Lombards qui dirigent ces Eldorados scandaleux font fortune et ne s'embarrassent point de la sueur ni des larmes qui mouillent leurs recettes quotidiennes. Mais quand le travailleur, encore tout ébloui par tant d'illumination et tant de dorures, rentre dans sa mansarde noire, sa gaieté persiste-t-elle? Il y a là souvent une femme qui pleure entre plusieurs berceaux. Il faut bien l'avouer, certaines industries parisiennes, quand on les examine de près, donnent le frisson, tout comme le ténébreux métier exercé par Coyatier, dit le marchef. Les temps du mélodrame sont passés, c'est possible, mais il y a encore chez nous des alchimistes qui savent faire de l'or très légalement avec de la douleur et de la honte. Paris s'habitue vite au froid, comme à tout. Malgré la brume glacée qui s'épaississait dans les rues, on voyait nombre de flâneurs circuler sur le trottoir, et les vieux bonshommes curieux qui regardent aux vitres des mercières étaient à leur poste tout le long de la rue Saint-Denis. Vers 7 heures du soir, il y eut un bruit singulier, indéfinissable, que personne n'avait jamais entendu et qui se propagea dans tout le quartier avec un écho à la fois terrible et lugubre. Chacun s'arrêta dans les rues pour écouter. Les sergents de ville dressèrent l'oreille, se demandant si ce n'était pas la clameur lointaine d'une jeune révolution qui vagissait. On s'étonna dans les ménages et toutes les fenêtres bien closes s'entr'ouvrirent aux divers étages des maisons. Dans les gargotes, les verres levés restèrent à mi-chemin des lèvres et les fourchettes cessèrent de grincer sur l'épaisse faïence des assiettes. Quel était ce bruit qui dominait le grand murmure de Paris, ce bruit qui était sourd et grave comme un tonnerre et qui pourtant perçait toutes les murailles, distinct des autres fracas et entrait dans les maisons à travers les portes fermées? Jules Gérard, le dernier paladin, a fait un livre sur ses adversaires vaincus. Dans ce livre, empreint d'une sentimentalité épique, Jules Gérard raconte la vie et la mort des lions qu'il a tués. Il y a là une page pleine d'une prodigieuse émotion où l'on entend le lion agoniser dans le désert. C'est une voix qui s'éteint, mais qui est gigantesque encore. À l'écouter, hommes et femmes frémissent sous l'attente. Dans les douars, les chevaux tremblent sur leurs quatre pieds paralysés, et le long de l'ouette qui va, desséchée à demi entre les pierres et les palmiers, les autres habitants du désert, saisis d'une terreur profonde, écoutent. C'est le roi qui meurt, le seigneur, le Sidi Lion. La nature entière prend part à son agonie et porte un deuil épouvanté. C'était ici encore le Sidi Lion, le seigneur, le roi des déserts, dont la plainte suprême ébranlait tout un coin de la civilisation parisienne. Il avait beau être esclave, vaincu, déshonoré, son cri funèbre montait et s'élargissait presque aussi grand que la grande voix de la foudre. Il avait beau être humilié, et depuis combien de temps, sous l'outrage grotesque de la servitude, subissant la médecine ignorante des chalots, grimé comme une courtisane hors d'âge, rapiécé comme un vieux manchon qui perd son poil, il avait beau être criblé d'emplâtre et porté perruque, la mort le redressait dans son inaliénable grandeur. Paris ne savait pas, les lions sont rares à Paris. Paris, qui parle toutes les langues, était inhabile à reconnaître la dernière parole du lion. Car c'était bien Monsieur Daniel, le prisonnier valétudinaire de Maman Samaillou, qui poussait son rugissement suprême dans la baraque abandonnée. Loin du mont Atlas, dont la cime soutient les cieux, loin, bien loin des sables sans limite, tourmentés par le Simoun, où le soleil brûle le regard des hommes en réjouissant l'œil des lions, à Paris, le paradis des lionnes, des chiens bichons et du chat de la mère Michel, il mourait à Paris, lui, le roi du désert, dépouillé même de son nom, comme tous les rois exilés. Sic transit gloria mundi, ainsi passe la gloire du monde, le seigneur lion décédé sans pompe ni crinière dans la peau chauve de Monsieur Daniel. Par le temps affreux qu'il faisait, il n'y avait personne dans les terrains de la percée nouvelle. Les rugissements du moribond s'élevaient, à intervalles presque égaux, entrecoupés de profonds silences, comme éclataient, dit la légende, les appels du corps de Roland dans les gorges de Roncevaux. Nul ne répondait, car il y a de ces bruits dont on cherche en vain l'origine et le point de départ. Chacun se demandait où naissait ce tonnerre, personne n'avait songé à la maison de planches de Madame Samaillou. Sous la neige qui recommençait à tomber, une silhouette noire se détacha, éclairée à contre-jour par les réverbères de la rue Saint-Denis. L'homme qui marchait ainsi vers la baraque n'avait point les vêtements amples nécessités par la saison. Il allait grelottant et boutonné dans un mince paletot, serrant les coudes et fourrant ses deux mains jusqu'au fond de ses poches. Sur sa route, il y avait un tas de pierres, marquées par un lumignon municipal. La lueur du lampion glissa sur le paletot râpé jusqu'à la corde pour mettre en lumière un chapeau gris pelé coiffant des cheveux jaunes. Il y a des hauts et des bas dans la vie de Don Juan. Ce soir, Amédée Similor n'était pas en bonne fortune. Il revenait la tête basse, le gousset vide, l'estomac affamé. La réunion de la veille, à l'estaminet de l'épicier, n'ayant été suivie d'aucun résultat, on avait envoyé les simples soldats de l'armée des habits noirs sans autre bénéfice qu'une abondante distribution de ponches. Similor, après avoir couché je ne sais où, avait fait un tour de chasse dans Paris et rentrait bredouille au bercail, sans avoir rien mis sous sa dent depuis la veille. Vous jugez s'il était de joyeuse humeur. Les dames, se disait-il en montant l'escalier de planches qui menait à la principale porte de la baraque, s'agrouillent autour de vous dans les moments de la prospérité. Quand vient la circonstance de la débine, plus rien, bernique. Il essaya d'ouvrir la porte et au bruit qu'il fit, Monsieur Daniel poussa un sourd rugissement. Nom de nom, gronda Similor, né de bois. Il n'y a là que la vilaine bête. La veuve est à licher quelque part avec ses connaissances, avec ce gredin d'échalot peut-être. Il redescendit le perron et fit le tour de la baraque pour gagner la porte de derrière, dite entrée des artistes, qui s'ouvrait au moyen d'un truc connu par tous les habitués de la maison. Il entra cette fois et se trouva à l'intérieur de la cabane qui n'avait plus été ouverte depuis le matin et où l'agonie de Monsieur Daniel mettait une épouvantable odeur de fauve. Sent-il mauvais, à lui tout seul, ce paroissien-là, gronda Similor. Oh, hé, échalot, où donc que tu es, ma vieille? Hein, ça me fait toujours quelque chose quand je suis de temps en temps sans vous voir, toi et mon bibi de Saladin. Il était tendre parce qu'il connaissait le bon cœur de son Pylade et qu'il comptait avoir à souper. Mais à ses avances, personne ne répondit. Il appela encore et cette fois le lion poussa un rugissement qui retentit dans la baraque avec un éclat terrible. Et Similor eut froid dans les veines. Il avait refermé la porte en rentrant. L'intérieur de la baraque était plongé dans une obscurité complète. Son regard, qui s'était tourné d'instinct vers le lion, distingua deux lueurs rougeâtres, semblables à des charbons prêts à s'éteindre. En même temps, un pas pesant et mou sonna sur le sol, et il parut à Similor que les deux charbons approchaient. Les Parisiens sont rarement poltrons. Similor, ce misérable amalgame de tous les défauts, de tous les vices et de tous les ridicules de la basse bohème, avait du moins une sorte de bravoure. « Toi, dit-il, tu ne vaux pas cher, bonhomme. Si tu étais cuit, je mangerais bien tout de même une tranche de ton filet, car j'ai une faim de patagon, et je ne veux pas que tu me manges. » Tout en parlant, il s'était baissé, cherchant autour de lui un bout de bois qui pût lui servir d'arme. Le lion approchait toujours, lourdement et, selon toute apparence, paisiblement, car l'instinct de tous les animaux est le même à l'heure de la souffrance. Ils cherchent du secours. La main de Similor venait de rencontrer un fragment du balancier ayant servi jadis à la danseuse de cordes et qui formait une excellente massue. « À la niche, dit-il, vieux Rodrigue, allez coucher, ou je tape !» Comme il se retournait en ce moment, il vit les deux charbons tout près de lui et sentit le vent d'une haleine fétide. « Crénom ! S'écria-t-il en reculant d'un pas. « Est-ce que Monsieur Daniel aurait faim, lui aussi ?» Dans sa frayeur irréfléchie, il brandit le fragment de balancier qui tournoya et vint tomber sur la tête du lion. Le lion s'affaissa en poussant un rauquement plaintif et les deux charbons ne brillèrent plus. « Nom d'un nom, fit Similor, la bourgeoise ne va pas être contente. Mais on n'aura pas besoin de lui raconter cette histoire-là en détail. »« C'est égal, ajouta-t-il, en se redressant dans toute l'enfantine naïveté de son orgueil. On n'en trouverait pas beaucoup, depuis l'Hercule de l'Antiquité, pour abattre un lion furieux avec un bout de bois et d'un seul coup. » Il marcha en tâtonnant vers le coin où se faisait la cuisine, car la faim le talonnait. Le fourneau de fonte était froid, et sur la planchette où Échalot mettait d'ordinaire ses pauvres provisions, il n'y avait même pas une croûte de pain sec. « Est-ce qu'il se dérange, ce gredin-là ? » pensa Similor. « Où donc peut-il être allé avec le môme ? Quand le diable y serait, il va revenir coucher, toujours. Qui d'ordine ? En l'attendant, je vais tâcher de faire un petit somme. » Il traversa la baraque dans toute sa longueur pour gagner l'endroit où était la paille du lion. « C'est encore chaud, fit-il en se couchant à la place occupée naguère par sa victime, mais ça ne sent pas la rose. » Au moment où il fermait les yeux, quelqu'un tira au dehors le loquet de l'entrée des artistes. Similor se souleva sur le coude et pensa « Allons, j'ai de la chance, je n'aurai pas attendu trop longtemps mon souper. » Le nouvel arrivant était encore un habitué de la baraque, car il ouvrit la porte sans effort et entra comme chez lui. Et Similor, désormais, attendait. Le sauvage parisien a des prudences d'Iroquois, il guette toujours un peu avant d'agir ou de parler. Le nouveau venu eut à peine fait quelques pas dans la baraque qu'il buta contre le corps du lion. Je m'en avais douté, dit-il avec mélancolie, mes soins ont manqué à la pauvre bête et elle l'a rendu l'âme. Cet échalot, pensa Similor. Motus, on va savoir d'où il arrive et la vie qu'il mène. Échalot, en effet, comme presque toutes les pauvres créatures qui n'ont pas beaucoup d'amis, parlait volontiers tout seul. « De profundis, murmura-t-il, un peu plus tôt, un peu plus tard, nous finirons tous comme ça. C'est une perte pour la patronne, mais elle n'a pas le cœur à s'occuper de ses affaires d'intérêt. » « Où l'a-t-elle le cœur ?» se demanda Similor. « Est-ce qu'elle va se faire chartreuse pour pleurer son lieutenant d'Alger ?» Échalot, cependant, gagna le coin où était son fourneau et se mit à battre le briquet. Similor avait la bouche ouverte pour parler enfin lorsqu'il entendit ces paroles remarquables. « Ça me gêne, moi, disait Échalot, d'avoir tant d'argent sur moi. On ne sait pas ce qui peut arriver. Je cherche la patronne depuis midi et il me semble toujours que ma poche coule, laissant filer les billets de banque. » Les oreilles de Similor s'ouvrirent comme deux pavillons de trompe de chasse. « Des billets de banque » répéta-t-il. Et il s'incrusta plus avant dans la paille, flairant un énorme coup à tenter. « Ah, faut tout de même que Madame Léocadie ait une jolie confiance en moi, » continua Échalot, en approchant une allumette de l'amadou qui avait pris feu. « J'avais peine à croire que ces paperasses avaient la valeur qu'elles disaient, mais je n'ai eu qu'à les mettre sur la planchette au guichet du changeur pour avoir des mille et des cents. » Similor se pinçait le gras du bras, pour être bien sûr qu'il ne rêvait point. « En voilà un changeur, pensa-t-il, qui a de la confiance de reste. Au vis-à-vis de la mauvaise tenue de ce canard, il n'a donc pas seulement eu l'idée que les papiers devaient être volés. » C'était là une observation plausible et pleine de justesse, mais la chandelle d'Échalot, en s'allumant, y fit une triomphante réponse. Les yeux de Similor battirent, frappés par un éblouissement. Il n'aurait pas pu être plus étonné s'il avait vu son humble ami revêtu d'un manteau d'hermine et coiffé de la couronne royale. C'était en effet une métamorphose presque féerique. Échalot avait des souliers neufs, bien cirés, un pantalon noir, le tout en beau drap fin et tout battant neuf. Il avait en outre un chapeau de soie dont le lustre était vierge et qui, par la neige qui tombait, avait dû voyager en voiture. Il portait enfin une chemise d'une entière blancheur sur laquelle se nouait une cravate de satin. En plus, ses cheveux étaient peignés à fond et sa barbe était faite. Nous ne voulons point dire qu'il fut très beau comme cela, mais sa laideur était transfigurée à ce point que Similor eut vraiment peine de le reconnaître, d'autant que la gibecière, asile habituelle de Saladin, n'était plus suspendue au cou d'Échalot. Similor pensa trop de choses pour prendre le temps de les exprimer. Il dit seulement en lui-même « Nom de nom !» Et cette simple interjection valait tout un long discours. Échalot apporta son flambeau sur la table où Madame Samayou avait trinqué la veille au matin avec Gondrequin militaire et Monsieur Baruc. Il s'assit sur la chaise même de la veuve et tira de sa poche un paquet de papiers que du premier coup d'œil Similor reconnut pour des billets de banque. C'était le produit de la négociation confiée par Maman Léo à son page Échalot. Nous savons que toute cette journée avait été employée par elle à d'autres besognes et qu'elle n'avait pas quitté Valentine. Son dévouement était de ceux qui ne marchandent pas. Elle s'était mise dans la tête, ou plutôt dans le cœur, de sauver Maurice Pagès à n'importe quel prix. Les moyens à employer lui échappaient encore ce matin, mais elle savait que l'argent était le nerf nécessaire à cette guerre qu'elle allait entreprendre. Elle avait fait ce qu'il fallait pour se procurer de l'argent. Malgré la défiance si naturelle à ceux qui ont travaillé beaucoup pour gagner peu et qui en outre se sentent entourés de gens sujets à caution, elle n'avait pas hésité à remettre sa fortune entière entre les mains d'Échalot. Elle s'était dit, pour excuser à ses yeux cette hardiesse, « J'ai de l'œil, j'ai jugé cette créature-là du premier coup, je crois en lui bien plus qu'en un notaire. » Et elle avait ajouté, « Quant à mon Saint-Fruscrin, j'en dois les trois quarts au talent réuni de mon Maurice et de Fleurette, qui faisait tomber des pluies de pièces de 100 sous dans mon comptoir. Ah, c'était bien le moins que je rende à ces enfants-là ce qu'ils m'ont donné. » Enfin, car les pauvres gens ont une idée très précise et très développée des obstacles que la pauvreté oppose à chaque pas dans la vie, Maman Samayou avait songé tout de suite à transformer Échalot pour lui rendre possible l'accomplissement de sa mission. Elle avait eu exactement la même pensée que si Milord. Elle s'était dit, avec sa tenue, chez l'agent de change, on l'appellera voleur et on est capable de l'arrêter. Préalablement à toute autre chose, elle l'avait donc donné à notre amie de quoi s'acheter une garde-robe complète, et c'était pour aller chez le tailleur qu'Échalot l'avait quitté dans la rue pavée au Marais, devant l'entrée principale de la force. Le paquet de billets de banque était ficelé avec soin. Néanmoins, la préoccupation d'Échalot était si grande, il avait à tel point conscience de sa responsabilité qu'il voulut compter 1 000 francs par 1 000 francs pour être bien sûr que quelques-uns de ces précieux chiffons ne s'étaient point envolés en route. « Ça tient dans la main, se disait-il, en défaisant le nœud de la ficelle, et si on changeait ça en pièces de 2 sous, il y en aurait gros comme la baraque. » Ah, quelle capacité, faut qu'elle l'ait, Léocadie, sous l'apparence d'une femme agréable et sans souci, pour avoir amassé une pareille opulence. Il mouilla son pouce et les billets froissés rendirent un petit bruit. Similor ne respirait plus. Choisissez parmi les poètes dont la gloire emplit le monde et chargez le plus puissant d'entre eux d'exprimer la fiévreuse envie que Similor avait de mettre le grappin sur les économies de maman Samaillou, je vous affirme que votre poète de choix restera au-dessous de sa tâche. On peint l'amour, la haine, l'avidité, toutes les passions humaines, mais la fringale sans nom d'un mohican comme Similor, en face de 60 ou 80 billets de banque, voilà ce qui défie toute habileté de plume ou de parole, voilà ce qui est véritablement surhumain. Il avait vu des billets de banque aux devantures des changeurs, il les avait caressés du regard, souvent et longtemps. Depuis son adolescence, l'idée d'avoir un billet de banque était pour lui un rêve plein d'attendrissement et de folie. Il n'était pas avare, mon Dieu non, au contraire, il était prodigue au même degré que ses fils de famille qui viennent manger à Paris en compagnie des dames rousses, le capital du papa décédé. C'est l'esprit français, dit-on. Similor avait l'esprit français. Les imbéciles dont je parle, quand ils ont dévoré le patrimoine du vicomte ou du coutelier qui fut leur père, deviennent coquins ou mendiants, selon le sort de leur tempérament. Et Similor était l'un et l'autre d'avance, et dans quelle splendide mesure! Il était poète, lui aussi, il voulait mener la vie à grande guide, ce don Juan de la boue, il voulait éblouir le ruisseau, il voulait boire des océans de volupté dans son tombereau triomphal, traîné par toutes les Vénus éraillées, par tous les Cupidons galeux grouillant au fond de ses bosquets, où Armide à la haute tient sa cour galante à 100 pieds au-dessous des égouts de Paris. Ah, c'est une grande figure que ce laid gredin marchant sur ses tiges, et j'espère que son portrait séculaire, si faiblement ébauché qu'il soit par mon insuffisance, me tiendra lieu de génie auprès de la postérité. Ah, il s'était retourné sans bruit dans sa paille humide et fatiguée qui n'avait plus de sonorité. Il s'appuyait déjà sur ses mains, le cou tendu, l'œil injecté, la poitrine au ras du sol, dans l'attitude d'un sauvage qui s'apprête à ramper pour surprendre son ennemi. Échalot était encore sans défiance. Il se croyait seul et retournait ses billets de banque un à un, prononçant à haute voix les chiffres de son compte. Mais tout en comptant, il réfléchissait. 18, disait-il, 19 et 20. Quand on songe que tout cela va passer peut-être pour le lieutenant. 21, 22 et 23. Ils étaient collés, ces deux-là. C'est doux comme du coton, et ça fait plaisir à manier. La patronne l'a dit. 29 et 30. Ça lui est égal de recommencer sa carrière sur nouveaux frais. Est-ce un beau trait de dévouement, ça? 37. Au fait, c'est une circonstance qui peut me donner l'opportunité de parvenir au comble de mes intérêts, puisque sa fortune était un obstacle. 40, 41. À l'obtention de sa main. En ce moment, un bruit imperceptible arriva jusqu'à lui, mais il ne leva pas les yeux parce qu'il regardait avec inquiétude un des billets de banque qui avait une déchirure. « Celui-là, est-il bon tout de même ?» se demandait-il. Et Similor ne bougeait plus, tant il était effrayé du bruit qu'il venait de faire. Il n'avait pas encore quitté le lit du lion. Le hasard avait entortillé un de ses pieds dans le lien d'une botte de paille, et chaque fois qu'il cherchait à se dégager, la botte remuait, la paille bruissait. Quel était cependant son dessein, en dehors de ce fait principal, de cette aspiration enivrante, la volonté de s'emparer des billets de banque? Il connaissait Échalot des pieds à la tête. Il savait que le digne garçon défendrait jusqu'à la mort le dépôt qu'on lui avait confié. Qui veut la fin veut les moyens. Ne fouillons pas trop avant les profondeurs de ce caractère. Avec certains seigneurs, bien couverts, portant gants blancs et bottes vernies, nous serions en vérité plus à l'aise. Et après tout, si Milord n'avait peut-être pas songé à cette nécessité où il allait être d'assommer Échalot, son meilleur ami. Au moment où ce dernier retournait le 50e billet, un bruit distinct lui fit dresser l'oreille. Il regarda du côté de la paille et vit deux yeux qui brillaient en vérité plus rouges que ceux du lion lui-même. C'est à peine si la chandelle posée sur la table jetait une vague lueur jusqu'au tas de paille. Échalot ne reconnut point Similor, mais à la vue d'une forme humaine, il saisit les billets à poignée, les fourra vivement dans sa poche et boutonna sa redingote. Et Similor, se voyant découvert, sauta sur ses pieds. « C'est toi, Médée, » dit Échalot, avec un soupir de soulagement, « tu peux te vanter de m'avoir fait peur. » Similor avança de quelques pas et croisa ses bras sur sa poitrine. Quelqu'un qui n'a pas la conscience tranquille, dit-il en parlant un peu au hasard, mais de sa voix la plus emphatique, est toujours facile comme ça à avoir peur. Qu'as-tu fait du petit confié à tes soins? On va t'expliquer ça, répondit Échalot. Il s'est passé des choses. Il s'arrêta tout à coup et reprit. Au fait, ces choses-là, ça ne m'est pas permis de te les communiquer. Tout ce que je peux te dire, c'est que notre enfant est en lieu sûr, bien nourri, bien soigné, et plus heureux qu'à la baraque entre les mains d'une personne de l'autre sexe habituée à l'éducation du jeune âge. » Similor le laissait parler sans l'interrompre, parce qu'il faisait appel à toute sa rouerie, se demandant s'il fallait essayer des négociations ou entamer la bataille tout de suite. Il était assez brave, nous l'avons dit, et il avait grande idée de ses talents comme boxeur français. Mais d'un autre côté, il savait qu'Échalot n'était point un adversaire à dédaigner, malgré son apparence timide. « Est-on des frères ou n'en est-on pas ?» demanda-t-il brusquement. « J'ai vu le temps où l'on partageait en deux le moindre petit morceau de pain, et pourtant tu as présentement un bon dîner dans le ventre, tandis que moi je suis à jeun depuis hier soir. » « Je te paye à souper si tu veux, » s'écria Échalot. « Tu es habillé d'elbeuf depuis la semelle de tes bottes jusqu'au rond de ton chapeau, » reprit Similor avec plus d'amertume. « Et moi, ton associé, j'ai sur le corps des vêtements qui tombent en guenilles. » « Ça, murmura le père nourricier de Saladin, c'est une portion de secret que je ne peux pas dévoiler. » « Parce que tu es fautif et même criminel !» s'écria Similor, en jouant tout à coup le désordre d'une indignation qui éclate. « Je t'ai vu compter des billets de banque dont tu as tes doublures toutes pleines. Tu es un trahisseur et un mauvais frère. Tu as fait un coup pour toi tout seul et tu complotes secrètement de gagner l'étranger en nous laissant Saladin et moi dans la misère. » « Je te jure, » voulut commencer Échalot. « Tais-toi, pas de faux serments, je les dédaigne. Ah, s'il n'y avait que moi, je te laisserais pour ce que tu es dans ta vilenie. Mais je suis père, je songe à l'innocente créature que tu abandonnes, je ne fais ni une ni deux. Je te dis, dans le blanc de l'œil, partageons, mais là, tout de suite, sur le coin de la table, un chiffon d'un côté, un chiffon de l'autre. » Ou sans quoi, dans mon sentiment paternel, je vas prendre tout en faisant la fin de toi. » Échalot, dans la bonté de son cœur, aurait volontiers parlementé, car il avait une véritable affection pour le père de Saladin, mais celui-ci n'était point en état d'écouter la raison, et on le voyait bien. Ce n'était plus le même homme, son aspect vous eût fait peur. Il avait le teint terreux des malades, il avait ce regard tout noir de taureau furieux et qui laboure la terre avec ses cornes. Le bouffon grotesque des bas-fonds parisiens tournait au tragique. La fièvre ardente le tenait et la fièvre de sang. Échalot pensa, ça va être dur, quand on pense qu'il a le toupet de parler du petit, parce que s'il avait les chiffons, il les avalerait littéralement en os et festins de consommation personnelle, sans acheter un sou de lait à l'innocente créature. Il fit le tour de la table, mais ce fut seulement pour avoir le temps de relever ses manches et achever de boutonner sa redingote jusqu'au menton. Aussitôt après cette toilette préparatoire et rapide, il sauta galamment dans l'espace libre, où il prit position d'un air à la fois mélancolique et résolu. « Censément, dit-il, ça m'agace un tantinet de m'aligner avec l'ami de mon adolescence, mais si je renaudais, tu aurais des doutes sur mon honneur. » Ce n'était certes pas en souvenir de l'aîné des quatre fils Aymon que ce verbe « renauder » était devenu classique dans le langage des sans-gênes. Quant au mot « honneur », pris dans son sens chevaleresque, nous affirmons que chez les sans-gênes, il est employé désormais plus sérieusement et plus fréquemment qu'en aucun autre monde. Et si Milord n'avait peut-être pas lu l'Iliade, et pourtant il répondit comme Ajax « À toi, à moi, Ranaïota, ça ne va pas peser lourd ». Il s'était campé selon la garde élégante des professeurs de boxe et adresse française. Ses jambes, entretenues par la pratique de la danse des salons et qu'il avait vendues tant de fois aux peintres en qualité de modèle pour le bas, placèrent leurs pieds en équerre et eurent deux ou trois flexions élastiques avant que le corps s'assît carrément sur leur base élargie. En même temps, il se décoiffa d'un geste fanfaron et mit ses deux doigts fermés à la hauteur de l'œil. Il était très beau, et les maréchaux de la savate n'eussent pu que l'admirer. Échalot, doué d'une cassure moins brillante, obéit à la vieille tradition et passa préalablement ses mains dans la poussière du sol. Il négligea les fioritures du métier et prit tout bonnement la pose de l'humble combattant qui défend ses yeux à la courtille un soir de bal habillé. Jambes écartées, tête en arrière, mains étendues et prêtes surtout à la parade. « Vas-y, Amédée, dit-il avec gravité, tu vas chercher à me détruire, c'est dans ton caractère. Moi, je n'essaierai que de te casser une patte comme étant gardien des trésors de la bourgeoise. » Ce dernier mot fut coupé par une ruade lancée de pieds de maître. Et si Miller avait fait comme ces tireurs de régiment qui débutent par le coup droit avant que la main de l'adversaire ait acquis toute sa vitesse de parade. Mais Échalot, qui connaissait le jeu de son pilade, rabattit le coup nettement et ne riposta pas. Un ricanement passa entre les dents serrées de Similor. En retombant d'aplomb, il porta le double coup de boxe anglaise, et la poitrine du pauvre Échalot sonna deux fois comme un tambour. « Touché, dit-il paisiblement, tu as du talent, Amédée, et comme tu n'as pas l'estomac fort, ces deux touches-là t'auraient défoncé. Mais moi, je pose pour le haut, et c'est solide. Je te préviens que je vais taper désormais. » Un coup de pied, fauché circulairement, lui arriva au flanc, raide comme une balle, en guise de réponse. Similor n'avait garde de parler. Échalot, au lieu de venir à la parade, fit un pas en avant uniquement pour amortir le choc et détacha son poing droit, qui toucha Similor au front à l'instant même où celui-ci se relevait. Similor chancela, comme s'il eût donné de la tête contre une muraille, et tomba sur ses genoux. Échalot demanda, sans même songer à profiter de son avantage, « Ça t'a fait du mal à m'aider ?» Il avait presque retrouvé la douce voix que nous lui connaissons et avec laquelle il disait de si raisonnables choses pour l'éducation du petit Saladin. Probablement que ça n'avait pas fait du bien à Similor, car il ne se releva point. Et pour réponse, il ne donna qu'un sourd gémissement. Sa tête pendait sur sa poitrine. « C'est sûr, dit Échalot étonné, que tu t'es laissé bien ramollir, depuis le temps, par toutes les voluptés que tu t'y livres au café et chez les dames, car je n'ai pas tapé de toute ma force. Au lieu de continuer, je te laisse souffler, ne désirant pas abuser de ma victoire. » Il se rapprocha de la table pour regarder de près, à la lumière, la place où le pied de Similor avait touché sa redingote. « Ah, jeu de main, jeu de vilain, » grommela-t-il d'un ton de sérieuse contrariété, « et encore plus les jeux de souliers crottés. Le vêtement est marqué dès son premier jour d'étrenne. Ah, je vais toujours l'ôter et le plier proprement pour le cas où Amédée aurait l'idée de rejouer. » Il déboutonna la redingote. et Similors se tenait la tête à deux mains et ne bougeait pas plus qu'une pierre. Au moment de dépouiller la première manche, Échalot se ravisa. Il est filou comme un singe, pensa-t-il, et tricheur, et plus roué que Robert Macaire. Peut-être qu'il fait le mort pour me prendre en traître. Si j'ôte ma lévite, je n'aurai plus les économies de Léocadie sur mon cœur, prêt à les défendre jusqu'au trépas. Mais, d'un autre côté, quand aurai-je l'occasion de me payer une pareille pelure? C'est moelleux, c'est cossu, c'est plein la main. Il tâtait amoureusement l'étoffe du vêtement confectionné, qui ne méritait assurément aucun de ses éloges. Le désir de sauvegarder cette toilette si chère l'emporta. Il dépouilla une manche en ajoutant tout haut. Eh, vieux, j'ai donc tapé un petit peu trop fort. Assassin, prononça d'une voix sourde Similors, qui versa de côté et se laissa tomber dans la poussière sans lâcher son front. Ça a l'air d'avoir son compte, pensa Échalot, dont le cœur se serra. Mais il m'a déjà pris si souvent à ses grimaces et manières. Il ôta la seconde manche. On s'avait juré mutuellement dans les temps, murmura-t-il, une amitié réciproque et fidèle, qui ne devait finir qu'avec l'existence de toi ou de moi. Ah, j'y ai tenu, pour ma part, du mieux que j'ai pu, et la tâche qui nous unissait fut encore raccourcie par la naissance de notre Saladin, de qui la maman me faisait éprouver les mêmes émotions pures que j'ai ressenties par la suite pour Léocadie. Ah, c'est bête de s'aligner ensemble quand on partage les devoirs du père vis-à-vis du même môme, que si le malheur arrivait d'un double accident, il resterait seul au biberon ici-bas. Il étala sa redingote sur la table et la brossa d'une main caressante tout en poursuivant. Voilà les fruits de ta conduite inconséquente et dissolue, Amédée. Je voudrais pas te gronder sévèrement, puisque le coup a été mauvais, mais c'est toi qui as commencé. Je n'ai fait que défendre la chose sacrée du dépôt qui n'est pas à moi. Tu ne réponds pas. T'es donc bien malade. Attends voir que je mette ma lévite dans un endroit propre et je vais te prodiguer les soins compatibles avec mon apprentissage de pharmacien. Ah, tu m'en as fait des caresses depuis qu'on est ensemble, mais c'est plus fort que moi, et je te pardonnerai celle-là comme les autres. » Il avait replié sa redingote avec beaucoup de soin et regardé, plutôt 10 fois qu'une, la place froissée par le coup de pied. Il hésita un instant sur la question de savoir s'il laisserait le trésor de la dompteuse dans le paquet, mais son bon sens lui dit que mieux valait ne point s'en séparer, et il glissa les billets de banque entre sa chemise et son gilet boutonné du haut en bas. Après quoi, il gagna le coin où il faisait bouillir d'ordinaire le lait de Saladin et déposa le cher vêtement sur la planchette qui était son armoire. Et puis il revint, l'âme pleine de miséricorde, et disait déjà « Ah, maintenant me voilà tout au soin de l'amitié. Aie pas peur à m'aider. S'il le faut, je te ferai chauffer du tilleul et de la camomille. » Mais sa phrase s'acheva en un cri d'étonnement. Il n'y avait plus personne à l'endroit où il avait laissé Similors. « Où donc es-tu passé, Amédée ? » demanda-t-il en regardant sous la table. Dès ce premier moment, il y avait en lui de la défiance, tant il connaissait bien le cœur de son ami. « Ah, voilà de l'ouvrage, pensa-t-il avec une sérieuse inquiétude. J'aurais dû le démonter d'une patte comme je l'avais spécifié tout d'abord. » La chandelle posée sur la table projetait sa lumière à quelques pas seulement. Le reste de la baraque était plongé dans un clair-obscur qui trompait l'œil où les objets se distinguaient à peine. Le regard d'Échalot allait de tous côtés, interrogeant cette ombre, mais il n'apercevait rien, et à mesure que le temps passait, son inquiétude s'aggravait, parce qu'il se doutait bien qu'on allait le prendre par surprise. Au moment où il ouvrait la bouche pour interroger encore, sans beaucoup d'espoir d'obtenir une réponse, un bruit de ferraille frappa ses oreilles. « Les sabres ! » balbutia-t-il d'une voix altérée. « Je suis un homme mort !» En ce moment, un reflet s'alluma dans la nuit, et la voix de Similors, qui avait retrouvé tout son éclat, dit « Je ne veux plus partager, il me faut toute la tirelire de maman Putiphar. Si tu ne me jettes pas le paquet de chiffons, je te coupe en deux comme une pomme.